Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Boudelux Paris version week-end. Et oui, vous le savez désormais, Boudelux Paris, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en direct entre 13h et 15h sur BFM Business. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, Emmanuel, enfilez votre casque, puisqu'à l'occasion du Salon du Deux-Roues qui se tient porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche soir, nous vous présentons les dernières tendances en matière de grosses cylindrées. Place au vintage, à la personnalisation, la puissance avec Thierry Moutère, directeur général de Ducati West Europe, Guillaume de Sazilly, responsable marketing BMW Motorrad France, Guillaume Tira, responsable du concept store Royal Enfield à Levallois, et Frédéric Jourdain, cofondateur du collectif Blitz Motorcycles. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Emmanuel, on commence traditionnellement avec votre table de la semaine. Et alors là, c'est finalement un bistrot qui investit les beaux quartiers.
Oui, alors c'est le bistrot que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est une légende de ce qu'on a pu appeler la bistronomie. C'est la régalade. La régalade, historiquement, c'est Porte d'Orléans dans le 14e. C'était le bistrot d'un certain Yves Candebord, qui a été repris il y a quelques années par un autre très bon chef qui s'appelle Bruno Doucet. Cette régalade, elle s'était déjà exportée dans les beaux quartiers rue Saint-Honoré. Et elle déménage justement toujours dans cette rue Saint-Honoré. Elle était au 123, la voilà au 106. C'est toujours délicat pour un restaurant de déménager parfois. Vous savez, les murs, c'est un peu comme des fantômes. Ils viennent infuser un climat, une ambiance, et toute la cuisine s'en trouve chamboulée. Ici, pas du tout. La régalade, son mérite, c'est d'abord d'être métronomique. Tout est encore très bien réglé. On y retrouve d'ailleurs quelques réflexes délicieusement conditionnés. À la régalade, il y a une espèce de tradition, c'est la terrine de campagne, une terrine maison qui arrive en entrée en préambule, quel que soit le menu que vous allez disposer par la suite.
C'est pas un petit amuse-bouche, hein. Non, c'est la terrine de campagne.
C'est ce qui a fait en partie sa légende, ça existe toujours. Puis il y a un dessert qui fait partie des desserts, j'allais dire plutôt des riz au lait caramel les plus sanctifiés de Paris. Il est toujours parfait. On le retrouve là encore. Maintenant, ce qui change, c'est qu'on va ajouter une rôtissoire. Aujourd'hui, c'est aussi une régalade qui recolle un petit peu, vous savez, à cette œuvre de chair qui plaît à beaucoup de restaurants parisiens. Donc vraiment, des belles pièces de viande qui sont en broche et travailler au plus simple, hein, à la belle, au beau produit, à la belle tranche, à la belle cuisson. Et puis un jeu de salle. Alors bien sûr, avec une salle de bistrot au coude à coude plutôt sympathique, mais aussi une table privative face aux cuisines et puis une petite table d'hôte de 16 couverts dans une manière de salon. Bref, c'est une régalade qui déménage, mais qui reste fidèle à ce qu'il a fait, à sa constituante, toujours en pleine forme.
La régalade.
Au 106 désormais de la rue Saint-Honoré.
Voilà, 106 de la rue Saint-Honoré. Allez, des nouvelles boutiques de luxe. Chanel, pour commencer. Chanel Parfum Beauté, on vous en avait parlé, ils se sont lancés dans la cosmétique. Les parfums, ça on le savait déjà, mais sauf que désormais, il y a un écrin pour tous ces produits-là. Première boutique dans le Marais, 40 rue des Francs-Bourgeois, dans le 4e arrondissement. En plus, ça veut tout dire. Ça veut dire que là, pour le coup, Chanel sort des beaux quartiers pour s'en canailler un peu et venir au milieu du Marais. Alors on y retrouve tous les parfums, hommes, femmes, le maquillage, les soins, les accessoires de beauté, dans un très bel hôtel, l'hôtel Airway. Il y a bien sûr des maquilleurs sur place, il y a aussi des livres disponibles ou à acheter. On est évidemment dans un petit écrin, plein de miroirs pour se regarder sur toutes les coutures. Et on y retrouve bien sûr les derniers produits Chanel. Là vont arriver en janvier par exemple la fameuse crème Sublimage qui fête ses 10 ans avec une nouvelle formule, le maquillage printemps 2016 Sunrise. Donc vous retrouvez tous les essentiels de Chanel Parfum Beauté. C'est aux 40 rue des Francs-Bourgeois. Et puis très belle boutique du côté de la place Vendôme. Gros toilettage pour Breguet et elle vient de rouvrir cette boutique musée, puisque finalement au deuxième étage vous avez un petit musée. 6 place Vendôme, c'est l'ancien hôtel des Martrais. Breguet est installé là depuis 2007. Et du coup, c'est l'occasion de nous présenter une exposition, la tradition Breguet au cœur d'une icône, jusqu'au 5 décembre. C'est dédié bien sûr à Abraham Louis Breguet, l'inventeur du tourbillon, à qui on doit le nom de la marque.
Et aussi de la montre qu'on porte au poignet, vous savez, c'est cette montre bracelet, c'est Breguet qui l'a inventée.
Et il a passé toute sa vie à Paris, hein. Bien sûr c'est du savoir-faire suisse, mais lui il a passé toute sa vie à Paris, il y a fondé sa marque, et donc on retrouve cette exposition. Alors c'est une petite visite personnalisée, hein. On n'est pas là dans un musée quelconque quand on arrive chez Breguet. Et évidemment ils ont utilisé des pièces du musée qui sont juste au-dessus, pour illustrer toute cette histoire de Abraham Louis Breguet et de ce savoir-faire de l'horlogerie contemporaine. Retournez donc chez Breguet, 6 place Vendôme. Web de luxe.
Boudelux Paris, l'édition du week-end. Web de luxe.
Et pour Web de Luxe, nous accueillons Sandy Pronois, j'en perds mon latin. Bonjour Sandy, comment ça va?
Nickel.
Alors, nickel, justement,
du
puisque
latin,
vous partez
nickel.
Aux États-Unis.
Ouais, aux États-Unis, il y a Sonia Riquel qui vient d'ouvrir son e-shop, donc on peut la retrouver dorénavant outre-Atlantique. À l'occasion de ce lancement, et puis aussi pour les fêtes qui arrivent, elle a collaboré avec l'artiste graffeur André Saraivai. Ça a donné une collection donc avec des robes, des manteaux, enfin tout pas mal de choses comme ça, des sweatshirts, etc. Où il a réutilisé un petit peu les symboles du Saint-Germain-des-Prés. Donc on va retrouver des bouquins, du rouge à lèvres, des stylos sur les vêtements. Oh, c'est assez fun, hein, ça se porte vraiment en temps de fête parce que sinon je suis pas sûre. Mais voilà. Et en fait, si pour la petite histoire, cette collaboration elle a eu lieu parce qu'en fait André a refait la boutique du 6e arrondissement de Sonia Riquel et c'est à la suite de cette collaboration que ça aboutit sur cette collection. C'est une micro-collection, hein, capsule, collection bon, capsule.
Voilà. So Frenchy pour les Américains.
So Color.
Voilà, so Color. Sonia Riquel qui ouvre donc son e-shop aux États-Unis. Autre belle maison française, Hermès.
Hermès est Fancy en fait. Fancy qui est donc l'application shopping. On y trouve tout ce qu'il faut, hein, les robes, les pantalons, là encore, tous les vêtements, les chaussures, tout ça. Ben, en fait, Fancy a collaboré avec Hermès et a fait une mini-collection de trois objets. Le premier, c'est un vélo. C'est le vélo qui s'appelle le flâneur d'Hermès. Autre objet, le stylo Nautilus et puis des paires de sneakers en cuir de veau. C'est plutôt joli, ces trois outils. Je sais pas, voilà, on les voit, voilà. Bon, les sneakers, c'est un style, mais pourquoi pas. Voilà, c'est une belle...
Et Fancy, en fait, c'est une application d'achat.
Exactement, une application où on peut acheter tout ce qu'on a besoin d'acheter pour le dressing.
Parfait. Et vous continuez de faire votre shopping, mais au musée?
Ouais. Alors ça, c'est Shop at the Museum. En fait, c'est un site qui a été lancé par, je trouve plus son nom, Virginie Robin, site qui est aussi suivi par Fleur Pellerin, quand même, hein, il faut le dire, ministre de la Culture. Sur ce site, donc, on retrouve tout plein d'objets, donc de l'accessoire, de la déco, des posters, de la papeterie. Voilà, qui viennent directement des musées. Alors il y a le MoMA, il y a le British Museum.
Ah, pas seulement des musées parisiens.
Ah non, pas du tout. Ils viennent de tous les musées dans le monde. Elle recense un petit peu, elle achète ces objets-là, elle les met en vente sur le site. Bah, ça donne un peu l'impression d'avoir voyagé, d'avoir ramené du MoMA, je sais pas moi, un stylo ou je ne sais quoi.
On peut faire genre, on va à New York, je t'ai ramené un cadeau du MoMA et en fait, on n'est pas passé.
Quand même.
Quoi.
Non, mais c'est sympathique, c'est très
beau.
Sympa.
Ouais.
Mais bon,
c'est une très belle chose en général.
Je vois le mauvais esprit de Karine. C'est pas à New York. Enfin, j'étais au Shop at the Museum.
Shop at the Museum.
Il y a des romans de Modiano? Non, bah non, il n'est pas au musée.
Non, il n'y a pas ça.
Que Fleur Perrin, peut-être que ça me permettra de réviser.
En tout cas, c'est une superbe idée pour les cadeaux de fin d'année. On y pensera. Merci beaucoup. Sandy Pronois, à la semaine prochaine. Allez, un petit tour par le bar, Emmanuel.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas emmené au bar.
Pendant que vous emmenez à la laverie, d'ailleurs.
Oui, alors ça s'appelle le Lavomatique. Nous sommes au 30 de la rue du René Boulanger, c'est dans le 10e. C'est un bar qui appartient un petit peu à la veine, vous savez, de cette nouvelle scène, de ces endroits qui ne veulent pas se dire. C'est-à-dire ce qu'on appelle les vrais faux speakeasy. Vu d'extérieur, à part une manière de néon, vous n'imaginez pas que derrière se situe un bar. Puis quand vous entrez, vous êtes plutôt dans un chez-soi, un entre-soi. On a l'impression de se retrouver un petit peu dans un intérieur parisien. C'est très loft dans l'esprit, plutôt acidulé, plutôt pop, avec quelques petits gimmicks de décoration sympathique à la génération qui l'accompagne, quelques tapas plutôt améliorés, et puis des cocktails. Alors des cocktails, là encore, plutôt dans l'acidulé, dans le coloré, et puis toute cette veine des détox cocktails. C'est bon pour ceux que ça intéresse. Allez, je vous donne le détoxomatique, puisqu'ils ont joué un petit peu, ça s'appelle Lavomatique. On s'assied sur des poufs qui ressemblent à des boîtes de lessive.
Oui,
c'est sympathique.
Quoi.
Alors le détoxomatique, boire avec modération, mais vous allez voir, on n'a pas besoin de boire avec modération, puisque dedans, un cocktail amer et détox à base de betterave, cassis, liqueur d'artichaut. Ah, c'est gin, citron et pamplemousse. C'est quand même du gin. Donc, modération. Ouais. Plutôt sympathique.
Ouais, ça
c'est pour les
minets
du bar. La bonne nouvelle, et on en reparlera dans les jours qui viennent, c'est que les vrais bars, les purs, les durs, le Matisse et l'Alcazar qu'on avait disparu, on va les voir revenir. J'en parle dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ça sera bien pour décembre.
Mais ça va, on va parler moto pendant une heure, Emmanuel. On peut parler un petit peu de jus
d'étoffe. Lavomatique, c'est peut-être un bar. Je suis pas sûr que ce soit un bar à motard.
En tout cas, Lavomatique, c'est 30 rue René Boulanger dans le 10e. Allez, on passe tout de suite à l'objet de la semaine parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et l'objet de la semaine, je ne vous en ai pas amené sur le plateau parce que je vous donne tout de suite les prix, comme ça vous met un peu l'ambiance. Ça commence à 3000 euros jusqu'à 12 000 et quelques. Et je parle de quoi? Je parle de boutons de manchette. Mais attention, de boutons de manchette de haute joaillerie. Ce sont des Italiens qui ont lancé ça. Ça s'appelle Ex-Lux. Tommaso Ziffer, il est architecte et décorateur d'intérieur. Paquita Rossi Petrini, elle a déjà une marque, elle, Petrini Gioielli. Et Antonio D'Avanzo, pardon pour la prononciation, messieurs, dames, les Italiens. Elle est designer et chercheur pour la haute couture. Ils ont réuni leurs trois talents. Ils viennent de créer cette marque et c'est incroyable. Ce sont des boutons de manchette qui sont véritablement
des bijoux,
de la haute joaillerie. Vous avez par exemple une mini cage avec un petit oiseau à l'intérieur. Là, c'est plus de 12 000 euros. Vous avez une sorte de mini vase Ming. Vous avez que des choses absolument extraordinaires et hyper travaillées.
Ces pierres précieuses, semi-précieuses, des certissages.
Et puis surtout le travail des artisans. Ouais. On est sur un travail artisanal. Évidemment, à chaque fois, ce ne sont pas de grandes collections. Ce sont presque des pièces unique que l'on retrouve. Et pour l'instant, ils viennent de les présenter en France à l'ambassade d'Italie. Pour l'instant, il faut aller sur le site, faire une demande pour les recevoir.
C'est un peu des hommes baroques, en revanche. Hein. C'est... Je ne vais pas parler de dandy, mais c'est des hommes qui sont un peu expansifs. Ou alors la petite touche.
À l'italien. Ouais. À l'italienne.
Plutôt voilà. Ici. Hein. Justement, ça c'est peut-être la petite touche qui peut aller avec un costume très sobre.
Oui, pourquoi pas. Vous essayerez, Emmanuel. Ex-luxe. On en reparlera sûrement. Allez, on enfile le casque. C'est parti, Emmanuel.
Mieux vaut tard que jamais. Et vous connaissez la rengaine.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et Goût de Luxe sur deux roues cette semaine à l'occasion du salon qui se tient Porte de Versailles à Paris. Coup de projecteur sur les plus belles mécaniques européennes. Et oui, c'est comme ça que nous avons fait notre choix. Avec Thierry Moutère, directeur général de Ducati West Europe. Nous parlerons bien sûr du savoir-faire italien. Avec Guillaume de Sazilly, responsable marketing BMW Motorrad France. On parlera constructeur allemand. Avec Guillaume Tirard, responsable du concept store Royal Enfield qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Levallois. On parlera savoir-faire anglais et indien, parce qu'on est sympa quand même. Et avec Fred Jourdain, cofondateur du collectif Blitz Motorcycles, bonjour.
Bonjour.
On parlera du savoir-faire parisien, parce que vous aussi, vous avez les mains dans le cambouis au quotidien avec ce collectif. Alors, c'est vrai il y a quelques semaines, il y avait le salon de Milan, avant le salon de la Porte de Versailles. Et ça a permis quand même de dégager quelques tendances, et aux uns et aux autres, aux grandes marques. Par exemple, je me tourne vers vous, par exemple, Thierry Moutère, de présenter un petit peu les nouveautés en avant-goût. La tendance, c'est la puissance, c'est le vintage.
Je dirais qu'il n'y a pas une tendance, il y en a plusieurs.
Comme toujours, parce que vous avez toute une série de modèles.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'ouvre, nous, chez Ducati, vers de nouveaux segments de marché. Le cruiser, par exemple, où nous n'étions absolument pas présents.
Alors, attention.
C'est quoi le cruiser?
Là, on va falloir expliquer à chaque fois le cruiser.
Le cruiser, c'est les jambes en avant, les bras tendus, et on se balade.
C'est comme les Harley, quoi.
Voilà, un petit peu comme ça, cette fameuse marque américaine que vous venez de citer. Mais aussi, on se tourne vers les motos long cours, les aventurières avec la Multistrada Enduro. On élargit notre gamme Trambler avec le modèle 400. Donc, on était en 800 cette année. On passe à un modèle Trambler 400 cm3 pour les gens quelque peu effrayés par les gros cylindrés. On lance un nouvel hypermotard. On lance une nouvelle Panigale 959. Un nouveau Monster sportif. En fait, on étoffe un petit peu notre gamme. On va vers un ensemble de tendances qui pour nous s'affirme comme être
6 modèles d'un coup quand même.
En tout, ça fait bien 9 modèles, 9 nouveautés en 2016.
Si on regarde toutes les gammes que vous présentez.
9 nouveautés.
Alors, même question à BMW. Là, la tendance, vous allez me dire la même chose. On est un petit peu sur tous les segments parce que c'est nécessaire.
Exactement, on a une gamme qui est assez large aujourd'hui et on a 22 modèles au catalogue en 2016. Cela étant, c'est vrai qu'il y a une tendance néo-rétro qui s'est installée depuis déjà quelques années, qui est très très forte, sur laquelle les constructeurs européens ont beaucoup de choses à dire et à démontrer, puisque on est des constructeurs historiques, et notamment donc BMW a dévoilé un 90 Scrambler. Donc des Scramblers, c'est un petit peu l'ancêtre de l'enduro, si je puis dire. Donc on est très clairement dans cette veine de retour aux sources, puisque le premier Scrambler chez BMW, c'était dans les années 50, et là on revient avec une moto vraiment dans l'air du temps, et qui plaît en fait à une nouvelle catégorie de clientèle qui recherche vraiment un plaisir authentique.
Attendez, petite précision sur Scrambler. Question de vous dire, ça ressemble à l'enduro, mais l'enduro pour moi c'était plutôt un truc tout terrain.
Oui, à la base c'était pour aller dans les chemins. Après, les constructeurs ont construit des machines de plus en plus évoluées.
Scrambler, c'est un petit peu la moto que pilote Steve McQueen dans la grande
version. C'est quand même un peu plus
chic. Terrain, tu vois, tu vois quand il passe au-dessus.
C'est une moto qui est susceptible de rouler sur route et de rouler sur le petit chemin.
Voilà, attention, Fred de Blitz nous dit que Scrambler en anglais, c'est Guillaume de Royal Enfield. Royal Enfield sont bien placés pour parler de ça, on va voir.
En anglais, scramble, ça veut dire chemin.
D'accord.
Un scrambler, c'est une moto qui va sur les chemins.
On n'est pas vraiment dans le tout-terrain, mais pas loin. Juste, ce qu'on a pu voir ces dernières années, est-ce qu'il y a une dichotomie, enfin pas une dichotomie, mais plutôt un calque entre le monde de l'automobile et le monde de la moto? C'est-à-dire qu'il y a quand même, à chaque fois qu'on fait des émissions autour du monde des 4 roues, on voit bien qu'ils ont de plus en plus de mal à parler de la vitesse et que les grands vecteurs de communication et d'achat de la plupart du public sont plus dans le confort, dans l'esthétique, dans un pilotage plaisir. Est-ce que vous êtes, vous, dans les mêmes lignées et finalement, vous baissez un petit peu l'accélération par les moindres de performance? Pas du tout.
Pas du tout.
C'est plutôt des sportifs, c'est ce qui ont fait leur réputation.
Notre ADN, c'est quand même le sport. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2016, la nouvelle loi européenne nous permet de rentrer sur le territoire français des véhicules en version libre. Donc, version libre, ça veut dire des véhicules pouvant aller jusqu'à 200, 250 chevaux, hein, pour certaines marques. Ce qui, jusqu'au 31-12 2015, n'était pas possible. Uniquement, on pouvait rentrer avec une machine limité à 100 chevaux. Donc à partir du 1er janvier 2016, cette loi va être modifiée. Donc ça veut dire que les Français vont finalement être libres de rouler comme les Italiens, comme les Allemands. Et après, oui. Est-ce que vont-ils en profiter? Ça, c'est une autre.
Pourquoi ça vous fait rire, Fred Jordan?
Parce que ma petite perso et les gens pour qui on travaille, on n'est pas du tout là dans nous. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une très belle course à l'armement, mais vous l'avez dit vous-même, quoi, à quoi ça sert? Donc il y a des gens qui iront en circuit.
Sur circuit, parce que là,
ils pourront frotter le genou et utiliser la moto à sa pleine puissance, mais quand on roule dans une grande ville, ou même sur le national, parce que nous, c'est que ce qu'on fait, on dépasse pas 90, quoi. Donc 90, sur une Panigale, je pense qu'on est en première, même pas à fond, on est déjà à 90, donc bon.
Mais c'est bien, il y en a pour tout le monde, justement.
Guillaume, chez BM, pareil, vous jetez plus sur une moto plaisir, une moto esthétique, mais une moto de route où on prenne un peu le temps et toujours de la mécanique, et moins quand même sur la performance, même si derrière il y a des chevaux et de la.
On est toujours de toutes les façons sur des notions de plaisir de piloter, en l'occurrence une moto. Donc ça peut être effectivement avec une S1000RR, notre machine hyper sport, pour aller prendre du plaisir effectivement sur circuit et profiter pleinement de la puissance de ces motos qui font pratiquement 200 chevaux. Donc ça, c'est un premier point. Mais on peut aussi prendre du plaisir à faire des grands voyages et avoir des motos qu'on appelle GS, nos R1200 GS par exemple, qui sont une plus grosse diffusion au monde pour BMW. Là, c'est vraiment des motos pour voyager. Et puis, il y a effectivement des gens qui sont à la recherche de motos qui reviennent un petit peu à l'essentiel de la moto au départ, des motos plus authentiques, qui vont chercher un bel objet, très design, etc., qui vont pas forcément rechercher la vitesse et qui vont rechercher des plaisirs, on peut pas dire simple, parce que malgré tout, il y a un billet d'entrée, mais en tout cas, des plaisirs très authentiques.
Alors, à propos d'authenticité, de néo-rétro, de vintage, on va se tourner vers la droite. Guillaume Tira, Royal Enfield vient d'arriver en France, en tout cas avec un concept store à Levallois, dédié, parce qu'au départ, c'était pas le cas, même si c'était distribué. Mais c'est vrai que c'est une marque, alors que c'est l'une des plus anciennes marques au monde de moto, née en 1901 sur le sol britannique, et appartient maintenant à des Indiens. Comment on reconnaît une Royal Enfield ?
La Royal Enfield, on parlait d'authenticité, justement, elle représente l'authenticité même. C'est-à-dire que c'est une moto qui n'a aucune prétention de vitesse,
C'est une cylindrée.
C'est une petite cylindrée, c'est un monocylindre, c'est une architecture moteur très simple, c'est très authentique, c'est pas très puissant, et ça fait même l'éloge de la lenteur. Donc quand on parle d'authenticité de BMW, ça reste des motos qui font quand même 100 chevaux, et donc qui sont quand même assez difficile à appréhender. Là, on est sur des plaisirs simples, authentiques. Vraiment, la moto, l'essence même de la moto.
Mais c'est bien, on vous a pas mis face à face comme ça pour qu'il y ait battle. Mais finalement, on va faire un petit peu plus de vitesse, de puissance. Avec vous, on va rouler en ville. Et quand on regarde Fred Jourdain, vous êtes un petit peu la haute couture, la haute joaillerie. C'est un peu ça, non, votre collectif. Vous allez récupérer des motos d'occasion, oui. Et vous en faites. Vous allez piocher un peu partout et vous en faites une nouvelle. Ça, racontez-nous,
c'est que nous, on prend des motos qui ont en général entre 20 et 40 ans, et puis on va tout refaire mécaniquement, électriquement, et puis après esthétiquement, on va faire des travaux de peinture, enfin faire. Et puis surtout, on va monter des réservoirs qui sont pas du tout ceux d'origine. Donc on adore mettre sur une BM un réservoir de Honda. Ça fait grincer les dents certains, mais nous on aime bien. Ça fait une ligne qui est différente, qui n'était pas existante d'avant. Et comme dit Guillaume sur le mot authentique, quand il parle des Royal Enfield, en fait, nous, on a ramené la moto à ce qu'on aimait, c'est-à-dire un moteur de roue. Voilà. Il n'y a pas de sel confort, il n'y a pas de bulles, de protection, il n'y a pas tout ça, parce que c'est pas ce qu'on aime, nous. Et les gens qui viennent nous voir, ils sont pas nombreux, hein, on fait 15 motos par an, mais ils recherchent ça. Et effectivement, la notion de performance passe à l'arrière-plan. Ils veulent par contre de la fiabilité, ça c'est sûr, c'est ce qu'on propose aussi, et ils veulent de l'unicité, c'est-à-dire que...
Des pièces uniques.
On parlait de Steve McQueen tout à l'heure, en gros ils veulent se prendre pour Steve McQueen, et il n'y a pas de mal à ça, parce que c'est ce qu'on a voulu nous il y a 10 ans quand on s'est fait nos premières motos.
C'est ça, Blix, ce collectif, il a combien d'années?
Il a 5 ans maintenant.
5 ans. L'idée au départ, alors vous êtes quoi? Des préparateurs, des customiseurs? Parce qu'à l'arrivée, vous prenez des motos existantes, mais vous les reformez, à chaque fois ça devient quand même une pièce unique,
de manière d'OVNI. Nous on s'engage avec les gens pour qui on fait le travail, à ne jamais recopier ce qu'on a déjà fait, jamais, jamais, jamais. Après, il y a des gens qui en font d'autres et tout ça, mais oui, ben nous, par rapport aux gens ici, on fait pas le même métier. Par contre, on propose à la fin le même plaisir tous.
C'est que vous utilisez aussi un petit peu du savoir-faire de chacun.
Bah ouais,
évidemment. Et on en est ravis.
On la pose à Ducati. On a vu, alors le collectif Blitz, c'est certainement l'un des plus célèbres ces dernières saisons, mais il y a beaucoup comme cela, de petits collectifs qui se créent, de labels. Est-ce que ça a un peu bousculé les grandes maisons? Est-ce qu'on a vu aussi, dans les plus grandes maisons, y compris les marques japonaises, commencer à créer des préparations spéciales, des customisations, des capsules? Est-ce que ça vous a un peu bousculé leur manière d'appréhender la chose mécanique, celle des deux roues, un peu différemment, un peu plus personnalisée?
J'irai pas jusqu'à dire bousculer. C'est une tendance qui se crée. Il faut la respecter. Il y a une clientèle pour ça. On a nous-mêmes chez Ducati de donner une moto à préparer par un grand préparateur belge. Kruger en l'occurrence, pour ne pas le nommer, qui a préparé un scrambler. C'est leur métier, laissons-les créer. Nous faisons des volumes à notre échelle, bien entendu. Les préparations, tout ce genre de création, c'est un autre univers, et ils savent très très bien le faire. Certes, ils peuvent s'inspirer de notre passé,
bien sûr,
c'est ce qu'ils font, ils ont tout à fait raison d'ailleurs. Ce sont des pièces que l'on n'a pas, nous, la possibilité de faire en aussi petite quantité.
Guillaume de Sazilly, vous disiez, vous en êtes fier, pratiquement, vous êtes content.
Ah, tout à fait, on est très content et on essaie de garder de très bonnes relations ensemble. On a la chance d'avoir des marques historiques.
Vous êtes une des marques qui les a bien approchées, hein. Vous avez tenté. Hein.
Ouais. On a travaillé ensemble.
Ouais, on était très contents.
Ouais. Et on a une marque qui est historique, on a la chance d'avoir un parc roulant, comme on dit. On a beaucoup de propriétaires de motos anciennes et qui cherchent, parce qu'il y a eu quand même des productions assez fortes, et qui cherchent à avoir quelque chose que les autres n'ont pas, à personnaliser leur moto, etc. Et en fait, cette vague qui est apparue de customisation des motos, je trouve, a apporté un grand bol d'air aussi à l'univers de la moto en général, en nous ouvrant sur un public que nous, constructeurs, n'atteignons pas par le passé. Et là, avec ce phénomène et puis les déclinaisons de modèles un petit peu néo-rétro, on s'ouvre vers une population qui, auparavant, ne pensait pas forcément moto, et qui aujourd'hui revient vers nous.
Guillaume de Royal Enfield, est-ce que justement vous qui êtes une marque avec les contingences d'une grande marque, donc de production de ça, est-ce que vous n'êtes pas justement à mi-pente entre une vraie marque avec des contingences encore une fois de production, mais aussi un esprit et un public qui peut-être vient à Royal Enfield, qui n'est pas le public habituel qui irait chez Kawa, Honda ou d'autres grandes marques, mais ils viennent parce qu'il y a une espèce d'une manière de singularité de par l'histoire de la Royal Enfield et d'esthétique.
Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour l'histoire de la marque, parce que voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Royal Enfield, en Europe, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que la production en Inde, c'est en 2015 450 000 motos, alors que par exemple Harley, c'est 260 000. Donc en fait, en Europe...
Déficit d'image pour l'instant, quoi.
Ouais, il y a tout à faire.
Tout est à refaire.
Tout est à refaire, tout est à reconstruire. C'est pour ça qu'on a créé un concept store, d'ailleurs, à Levallois. C'est pour donner une certaine image à la marque, qu'elle mérite, d'ailleurs, au passage. Mais qu'elle n'a plus. Et puis après, à côté de ça, c'est vrai que les Royal Enfield sont des motos très propices à la customisation. Et les gens viennent nous voir aussi parce qu'ils savent que chez nous, ils vont avoir une moto simple, je vais le redire, authentique, mais surtout qui est facile à customiser. Et ils vont pouvoir personnaliser aussi leur moto très facilement.
On va s'arrêter là-dessus, parce qu'effectivement la personnalisation, mine de rien, c'est quand même un mot qui revient très souvent dans la bouche des uns et des autres. Ça fait quand même peut-être partie des tendances. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Goodnux roule des mécaniques cette semaine à l'occasion du salon du deux roues. Le meilleur des grosses cylindrées européennes est avec nous sur le plateau. Nous sommes en compagnie toujours de Thierry Moutère, directeur général de Ducati West Europe, de Guillaume de Sazy, responsable marketing BMW Motorrad de France, de Guillaume Tirard, responsable du concept store Royal Enfield à Levallois, et de Fred Jourdain, cofondateur du collectif Blitz Motorcycles. Je disais juste avant la pause, il y a quand même un mot qui revient auprès de tous, même chez les grands constructeurs, c'est le mot de personnalisation. Alors évidemment, chez Blitz, c'est évident, puisque vous créez de toutes pièces, voilà, une montre, vous le disiez tout à l'heure, qui est une montre n'importe quoi, une moto qui est une pièce unique, quoi qu'on ait un petit peu parfois dans la mécanique horlogère. Mais quand on regarde vos nouveaux modèles, par exemple chez Ducati ou chez BMW, on va commencer par Ducati, on peut personnaliser tout ça, c'est ça aussi l'idée.
Non seulement on peut personnaliser, mais on a une banque d'accessoires colossale, aussi bien pour la moto d'ailleurs que pour la personne, entre nous soit dit. Donc pour la moto, effectivement, il y a beaucoup d'accessoires. Donc ce qui donne libre cours à la création de chacun, de faire en sorte d'avoir une moto unique.
C'est autant que la voiture aujourd'hui, finalement, les couleurs,
la différence avec la voiture, c'est que la voiture, vous commandez vos options à l'achat, et vous recevez votre voiture. Alors que dans la moto, vous commandez votre moto, et ensuite, vous choisissez vos pièces, et vous faites monter et accessoiriser votre moto devant vous. Ce qui a un autre charme, ça relève plus de l'artisanat que de la grande industrie. Mais c'est rajoute un plaisir à la chose. Et effectivement, c'est une grosse partie de notre activité, l'accessoirisation de la moto.
Chez BM, c'est pareil, on peut...
On peut même avoir des options qui sont montées à l'usine, et ensuite, on a une gamme d'accessoires. Donc on a deux niveaux qui se superposent, et on a effectivement une gamme d'accessoires qui peuvent être des accessoires de confort ou des accessoires de style, et toute une gamme d'équipements du pilote... Donc on peut arriver...
Même pour le R90 Scrambler, alors un jour il faudra que vous m'expliquiez quand même le nom de vos motos, parce qu'on est assez vite perdu, j'imagine, quand on est novice, mais même pour le R90 Scrambler...
Oui, on a toute une gamme, ça va... Alors là, c'est très souvent des accessoires qui sont liés au design de la moto, avec des silencieux, des pots d'échappement, avec des selles, des clignotants qui peuvent varier, etc. Il y a vraiment toute une gamme qui a été développée autour de ça, parce que ça rejoint l'envie du client qui a envie de personnaliser sa moto. La moto, c'est un élément de style pour la plupart des gens. Ils veulent que la moto leur ressemble.
C'est le cas. Alors, bien sûr, la personnalisation de la moto qui ressemblera à celle du client, mais vous êtes deux marques européennes avec des grands logiciels, des grandes constituantes, des archives, une histoire. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que le public va chez Ducati parce qu'il a choisi Ducati, et pourquoi il le fait? C'est quoi, en gros, quand on a une Ducati, qu'est-ce qu'un ducatiste? Est-ce que vous arrivez à dresser une sociologie de vos clients? Et pareil pour BM, est-ce que vous les connaissez finalement? C'est parce qu'ils aiment l'Italie, c'est parce qu'ils aiment le côté un peu sportif, elles ont cette réputation des belles sportives, des véloces. C'est ça quand même qu'ils viennent chercher chez vous.
Avant tout, il y a une histoire derrière Ducati, une très grande histoire en compétition. Donc ça a fait naître, ça a créé, permis de créer une image, une notoriété qui est attenante à la marque, qui est considérable. Mais la clientèle de ducatiste, c'est sûr que c'était pas un moyen de locomotion qu'on achète pour se rendre du point A au point B. Le motard est passionné, mais le ducatiste est encore plus passionné. C'est rouge. C'est l'Italie.
C'est vrai qu'il y a un peu des codes qui ressemblent à ceux de Ferrari ou de Lamborghini.
On nous appelle d'ailleurs la Ferrari de la moto, même si on ne se gargarise pas de ce dicton. On est effectivement une marque italienne. Notre couleur, c'est le rouge. Donc le sport, notre ADN principal,
le circuit.
Maintenant, on se développe vers d'autres segments de marché, parce qu'il faut élargir. On peut pas uniquement rester dans le sport. Surtout que le sport aujourd'hui, c'est quand même un segment de marché qui a tendance plutôt à décroître qu'autre chose. Donc on s'ouvre vers d'autres segments de marché. Mais le ducatiste, celui qu'on appelle le ducatiste pur et dur, c'est le véritable passionné de la marque.
Guillaume de Sazy, même question, même punition, même motif. Est-ce que le client, le motard qui vient chez BM, il vient parce que, j'allais dire, c'est la sûreté, la robustesse, le savoir-faire allemand? Effectivement, il recherche d'abord et surtout.
Il y a un savoir-faire effectivement qui existe depuis 1923, et effectivement il y a des notions de sécurité qui sont très chères à la marque. On a été parmi les premiers à mettre en de série des ABS sur nos motos dans les années 80. Aujourd'hui, on est toujours dans ces valeurs de sécurité, aussi d'innovation et de performance. Pour preuve, on a lancé un scooter 100% électrique, qui marche très très bien d'ailleurs en France. On en voit de plus en plus dans les grandes villes, qui est accessible en plus avec un permis voiture, ou en tout cas l'équivalence permis voiture aujourd'hui, et qui est vraiment le nec plus ultra
du scooter. On n'est pas trop dans la moto.
Mais vous
avez
même lancé un prototype de sportive électrique ?
La IRR, tout à fait. Donc là, c'est vraiment une moto de sport avec un moteur électrique. On est vraiment...
Mais ça, justement,
les grands champs de l'automobile, les moteurs hybrides ou les moteurs électriques, est-ce qu'on
a
les
mêmes questions
dans le monde de la moto ?
Absolument pas, mais ça existe déjà en Formule 1. Et en fait, on ne le sait pas avant de conduire un engin électrique, le plaisir de conduire vraiment immense que ça procure, pour des raisons assez simples, de couple qui est disponible tout de suite, etc. Donc, on a vraiment des accélérations qui sont phénoménales. Et sans aller forcément très vite, l'accélération seule procure vraiment beaucoup de plaisir.
Ah bon, on va voir.
Fred de chez Blitz, ça vous fait pas peur, ça, là, un peu, la moto électrique ?
Ouais, j'ai eu la
chance. Parce que autant la voiture électrique, ok, d'accord, on comprend, c'est un peu une contingence. On s'y est fait, on va s'y faire. Mais alors, la moto, je suis un peu un novice, mais on a le sentiment que c'est quand même le plaisir de la mécanique. La moto électrique, là, ça commence à dire, c'est plus une moto.
On aime la vibration, l'odeur, tout ça. Mais j'ai eu la chance d'essayer un scooter électrique quand j'étais au BMW Days il y a 2 ans. Et j'avais l'impression d'être Aladdin sur un tapis volant. Ouais, franchement, c'était incroyable. Je dis pas que j'en ferais, personnellement. Mais je dis que c'est vrai que les sensations étaient...
À cause du scoop-lay?
Ouais. Quand on tourne la poignée, il se passe un truc tout de suite. Ça répond, et puis c'est pas bruyant. Donc on a l'impression qu'on plane un peu, en fait.
C'est comme un sport de glisse, on a l'impression... Ouais.
Il n'y a pas de frein moteur, par contre, c'est très perturbant.
Ah non, mais alors là, on va partir dans des discussions spéciales. Quand même, je voulais m'arrêter une seconde chez Blitz. Parce que vous disiez, c'est un collectif, vous créez avec Hugo Gézé-Gabel, on va le citer quand même, parce que tous les deux, passons vite fait sur le fait que vous étiez des cols blancs, j'allais dire comme tout le monde, ou presque, ici, que vous avez passé, vous, un CAP de mécanique, vous avez mis les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, si on vient vous voir... Oui. Pour faire, vous nous avez raconté vite fait comment ça se passait. Combien de temps il faut ? Il faut venir avec quoi ? Est-ce qu'il faut venir avec une ancienne moto ? Est-ce qu'on peut venir avec rien et voir avec vous, avec un fantasme, avec notre envie de tapis d'Aladin et
par exemple,
construit avec vous ?
Les deux sont possibles. Le temps d'attente entre le moment où, aujourd'hui en tout cas, à date, est d'environ entre 10 et 12 mois. Parce qu'on fait tout à la main et qu'on n'est que deux. Et c'est notre volonté de rester que deux. Et puis, soit vous venez avec une moto et on accepte de travailler dessus, parce qu'elle fera partie des motos sur lesquelles on sent qu'on a le pouvoir de faire la transformation qu'on a en tête. Soit on n'est pas d'accord et puis on en trouve une ensemble. Soit vous n'en avez pas et on en trouve une pour vous. Et donc, on va aller à la recherche sur le marché français, belge, allemand, de la moto d'occasion. Et puis ensuite, on va plutôt apprendre à vous connaître. Parce qu'on va vous demander vos souhaits en moto, mais en général, les gens qui viennent nous voir maintenant, c'est des gens qui passent le permis moto. Donc, ils connaissent le monde de la moto depuis quelques mois. Et c'est pas suffisant, nous, on estime. Donc, on va plutôt apprendre à vous connaître. On va vous poser plein de questions sur vous, votre vie, votre œuvre.
Psychanalyse rapide.
Ouais, un peu. Comme un tatoueur, en fait.
Exactement. Ou comme le parfum sur mesure.
Oui, comme chez Lutens, par exemple. Vous rentrez chez Lutens, si on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui êtes-vous? Ben, nous, on fait à peu près pareil. Et je touche du bois, et aujourd'hui, on s'est jamais trompé. Et on ne montre la moto qu'à la fin, nous, en plus.
Juste pour la confiance doit être installée très rapidement
dès le début.
Et ça coûte combien ?
Entre 15 et 20 000 euros selon le prix de la moto de départ.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Question un petit peu vachard, mais c'est le principe. Ouais. Aujourd'hui, on a invité beaucoup de, j'allais dire, les motos du vieux continent, historiquement.
Ouais.
Est-ce que vous parliez des motos qui vous inspirent au départ ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les motos qui nous inspirent, on est plutôt dans les motos soit des belles américaines, soit des belles italiennes, soit des belles allemandes, soit des ex-belles anglaises, ou est-ce que les motos japonaises sont aussi historiquement des motos qui peuvent vous inspirer, ou est-ce que vous avez un peu tiré une croix?
Non, pas du tout. Nous, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume.
En antenne.
Saint-Jacques,
en antenne, je peux vous dire.
Ouais. on n'a pas encore fait de Ducati, malheureusement. Un jour, peut-être, parce qu'on aimerait vraiment les Panta ou le Scrambler mono dont on a parlé. Mais en gros, si vous allez voir notre site, la moitié des motos, c'est des BMW, donc des allemandes, et l'autre moitié, c'est des japonaises. Alors après, il y a Yamaha, Suzuki, Kawasaki, mais on est à peu près 50-50 entre l'Europe et le Japon. On a fait une Royal Enfield, et on a fait une Harley Davidson à date. Voilà.
Alors, Royal Enfield.
Oui, justement, moi je voulais m'arrêter un instant sur Royal Enfield. On a parlé tout à l'heure de l'arrivée et du concept store à Levallois. On parlait aussi de toute l'accessoirisation, la personnalisation. Parce que quand on est motard, il y a la moto et puis il y a tout le reste qui va autour. Et c'est quand on regarde votre concept store à Levallois, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un point de vente. C'est parce que c'est tout un univers.
Oui, et c'est ce qui manquait un peu chez Royal Enfield, justement. Pendant très longtemps, c'était en Inde et ça n'a pas beaucoup évolué. Pendant 50 ans, c'est resté la Bullet qui était vendue en Inde. Elle était exportée très peu. Et aujourd'hui, il y a une volonté de relancer la marque à l'export. Et ça passe, justement, vous l'avez bien dit, par tout ce qu'il y a autour. Les marques d'aujourd'hui le font déjà depuis longtemps. Et pour nous, c'est nouveau.
Royal Donc Enfield, le blouson, le casque, le blouson, ouais, les accessoires.
On a toute une gamme d'accessoires, vêtements, lifestyle. Donc, c'est pas forcément que moto, c'est aussi des pantalons, des jeans, des vestes, des pulls, des gants, des casques. Enfin, il y a un peu de tout. Et ça colle bien avec l'image de la marque vintage.
Et aujourd'hui, les motos phares de la gamme Royal Enfield disponibles en France, parce que vous l'avez dit, hein, les moyennes cylindrées, ouais. Les motos de la route, des motos d'Odyssée, qui sont célèbres aussi pour avoir parcouru de longues odyssées à travers ouais. L'Inde ou ailleurs. Il y a beaucoup de courses autour des Royal Enfield. C'est quoi les modèles phares? C'est toujours la Bullet, la classique?
Alors, il y a deux catégories de motos. Il y a la Bullet, qui est un modèle historique. Et dans la Bullet, il y a plusieurs modèles. Il y a la version indienne, qui a été vendue en Inde pendant très longtemps, que les Indiens adorent, avec cette selle double à étage, où on peut mettre toute la famille
beaucoup,
dessus.
On voit des documentaires sur l'Inde à Bombay,
voilà, ça,
ils tiennent
le bébé. Dessus.
Dessus, ouais. Ouais, ça, c'est un peu Bullet. La Trabant des Indiens, vous vous souvenez hein.
Voilà, donc celle-là, elle existe en France, on peut l'acheter. C'est la Bullet standard. Ensuite, on a la Bullet classique, qui reprend les lignes de l'anglaise, qui sortait des usines de Redditch en Angleterre, avant de partir en Inde. Et ensuite, on a la Continental GT, qui est un modèle qui renaît, qui a existé dans les années 60 en Angleterre. Et ils sont repartis d'une feuille blanche pour construire une moto. C'est différent de la Bullet, qui est exactement la même moto, modernisée. Alors que là, ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont reconstruit une moto.
Avec une ligne quand même très rétro.
Voilà, avec la Continental GT, c'est vraiment le café racer pur et dur. Le café racer qu'on imagine dans sa tête. Ah voilà, c'est un peu la conscience.
C'est ça.
Ouais,
Le mieux, c'est d'aller voir sur place. On redonne l'adresse à Levallois.
Oui, c'est 100 rue Baudin, à Levallois.
À Levallois, donc le nouveau rendez-vous au Royal Enfield. Vous donnez votre adresse, le
jamais.
Collectif Blitz. Jamais, hein.
C'est
planqué.
Ouais. Bah vous
c'est
nous appelez, dans, on a le portable.
C'est dans le 17e arrondissement, voilà. C'est planqué. Vous pouvez toujours chercher. Et sinon, il y a le site internet.
Il y a un site internet qui est très bien fait.
Moi, je connais, vous pouvez me demander. Il faut venir me voir avant.
Bah, vous allez d'abord chez Royal Enfield, il vous donnera l'adresse de Blitz. De toute façon, il faut attendre un an. Ouais. Et le site est vraiment bien fait parce que ça raconte par plein de jeux de vidéos un petit peu votre travail, l'esprit, avec des films très très bien tournés.
Ouais. Ça, c'est pas nous, c'est les garçons avec qui on a fait les films.
Un joli petit collectif là-dessus. Ouais. C'est vrai que ça donne envie.
Ben merci.
Je peux en placer une pour t'en venir pour
oui.
D'accord. Mais sinon, il y a
vous
le
êtes à
salon.
L'arrière, c'est moi qui pilote.
Il y a le salon du Deux-Roues jusqu'à dimanche soir, porte de Versailles à Paris, pour découvrir notamment les nouveaux modèles rombissants de Ducati et de BMW. Thierry Moutarde pour Ducati West Europe, directeur général. Merci beaucoup à vous. Merci Guillaume de Sassy, responsable marketing BMW Motor à France. Merci à vous, Guillaume
beaucoup.
Tirard, donc le concepteur Royal Enfield. Merci à vous. Et Fred merci. Jourdain pour le collectif Blitz Motorcycle.
Merci.
Merci beaucoup à tous. Merci de rester avec nous dans un instant.
Ah, c'est pas fini, c'est vrai.
Ah non, c'est pas tout à fait terminé. On pose la moto, mais nous, on continue. C'est l'agenda dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Good Luxe et Médite, donc c'est l'heure de l'agenda. Enfin, c'est dans un instant, parce que d'abord, c'est notre rendez-vous parfumé mensuel. Et puis, bien sûr, le livre de la semaine. Et les livres de la semaine, même cette semaine. Emmanuel, j'avais envie de rendre hommage. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Comment s'appelle Good Luxe Paris? On oublie ses chefs régionaux et ses talents régionaux. J'ai pris deux bouquins qui sont sortis chez Glénat. Je vais commencer par celui-ci parce que finalement, il est plus connu. Jean-Michel Lorrain, La Côte Saint-Jacques, Saga Joanie et
Bourgogne.
Gourmandise. Donc un bel ouvrage, voilà, où on retrouve des recettes de Jean-Michel Lorrain que je vous laisse présenter.
Je le présente. Ça s'appelle plus. Saga et Gourmandise parce que d'abord, c'est pas Jean-Michel Lorrain, c'est la famille Lorrain.
Exactement.
Avant lui, il y avait Michel Lorrain et même tout avant, les grands-parents Lorrain. Depuis Michel Lorrain, c'est un 3 étoiles. Puis le fils Jean-Michel a repris. Maintenant, il n'y a plus que 2 étoiles Michelin, mais on s'en fiche. C'est vrai qu'on est au de la Bourgogne, dans la porte de la Bourgogne, du côté de Lyon, à Joigny. Et c'est vrai que les Lorrains, c'est ceux qui ont. Dans les années 80-90, on parlait des grandes Bourgognes. C'était l'Oiseau, c'était la Meloise et c'était les Lorrains. Et c'est ceux qui ont aussi réinventé un peu les nouvelles manières de terroir. C'est vrai que donc, il y a toutes les recettes totem et inspirées de la maison. Et puis ça raconte la maison et une histoire de passation de famille. Oui, ça mérite un ouvrage. Pour les fous de bouffe, ça mérite d'être consulté.
Et à la fin, quelques informations très pratiques, justement, pour pouvoir réaliser. Ses recettes. Et l'autre, alors c'est un petit peu un coup de cœur parce qu'il est moins connu. Le repas d'Arkadiusz, pardon pour la prononciation, Arkadiusz Zukmanski, il est polonais et il a un restaurant qui s'appelle Apicius, mais à Clermont-Ferrand. Et il est étoilé Michelin. Et alors, on découvre sa cuisine et c'est assez étonnant parce que ce polonais, il joue le vrai repas français gastronomique comme il est inscrit, vous savez, désormais au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est la totale. On commence par l'amuse-bouche et on
repas
finit.
Bourgeois.
Voilà, on a toutes les références, donc l'entrée, le double plat, l'avant-dessert, le dessert,
les entrées.
Voilà, exactement.
Alors moi, le restaurant a sa réputation. Je dois avouer que je ne suis jamais allé. Là encore, je pense que pour les passionnés de gastronomie, il y a un très beau travail iconographique. C'est la plongée dans un univers du restaurant. Je peux pas en dire beaucoup plus. Juste, ces deux livres sont publiés par la maison d'édition Glénat. Glénat, qui est une maison d'édition lyonnaise et qui justement fait ce travail un petit peu de aussi donner la revanche à tous ces grands chefs et à toutes ces tables provinciales. Et c'est vrai que c'est une maison d'édition qui fait d'abord des très beaux livres et qui raconte aussi cette dynamique provinciale.
Et alors,
ça s'incarne pas que dans les grands chefs parisiens.
Celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur parce que il y a un vrai savoir-faire beaucoup encore plus joli que celui sur Lorrain. Mais alors,
Clermont-Ferrand, l'Auvergne et la Bourgogne.
Vous allez pas me refermer cet ouvrage immédiatement. Je trouve qu'il est mieux fait, mais quand même, il y a une chose sur les deux. Cendre à la polonaise et risotto de céleri à la truffe noire, bruschetta, parmesan. Une recette magnifique, tout ça hyper graphique. Mais sincèrement, c'est infaisable, injouable.
Ça, c'est des livres.
Je voulais juste vous dire...
C'est des beaux livres pour les food books, c'est quasiment des listes de bibliophilie. On sait qu'aujourd'hui, il y a une veine dans la littérature gastronomique de publier des beaux livres de gastronomie qui racontent des histoires de chefs, qui sont un peu des fantasmes de recettes, c'est pas des livres pratiques. Ça s'adresse quelque part à des gens qui sont des passionnés, presque des dandys de la casserole. Mais il faut que ça existe.
Super beau livre, et je pense que maintenant, arrêtez-vous à Clermont-Ferrand, chez Apicius, et allez découvrir Arkadiusz Zukmanski après avoir offert cet ouvrage. Voilà, c'était la porte ouverte à la région, à la province, comme on dit. Allez, ça faisait longtemps si on faisait un petit tour du côté de la parfumerie.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Et oui, c'est le rendez-vous avec notre petit palmarès parfumé, notre diffuseur de bien-être. On en a bien besoin, le Lionel
Paillès. Grand chroniqueur, petit palmarès.
Bonjour Lionel, merci. Comment ça va?
Très bien.
Mais non,
dites
pas petit palmarès, parce que c'est intense en ce moment.
Ah bon? Absolument. Pour les parfums masculins, c'est vraiment l'obsession du moment. Donc on pousse le volume du parfum sur la peau.
Et ça se traduit comment ça, l'intensité?
Ça se traduit, en fait, on prend des versions de parfums connus et on pousse certains ingrédients, on donne de la puissance. En fait, le phénomène, c'est que je vous avais parlé de La Vie est Belle il n'y a pas très longtemps, qui est un parfum féminin, et je crois qu'il y a une forme de parité, c'est-à-dire que les hommes en ont marre que leur compagne est un parfum puissant et qu'eux n'aient pas ça. Donc, en fait, tous les parfums masculins du moment sont intenses, intensa, profumo, ils sont rebaptisés comme ça.
Et tout est quanti.
Et c'est, moi, je trouve que c'est une revanche. C'est une revanche de l'homme sur le siège de l'homme sur celui de la femme, et c'est très bien.
Alors,
ça va
se
sentir fort partout.
Très bien. Allez, on commence notre petit palmarès. Ah oui, avec vous, on sent toujours bon. Le lifting le plus réussi.
Alors, depuis un an, la maison Hermès avait retravaillé tous ses grands classiques. Donc, ils ont ressorti les grands classiques les uns après les autres. Donc, il y a eu Bellamy, qui est le moins ancien de tous. Il y a eu, qui s'appelait le Bellamy Vétiver dans sa réinvention. Et là sort Équipage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand masculin des années 70, un boisé épicé, très très beau. Ils sortent là un équipage géranium. Donc l'idée c'était de trouver dans cet équipage de initial une facette géranium, de la pousser à fond et d'en faire un parfum construit autour de cette note géranium.
Et voilà. Et
c'est très réussi. Et surtout, c'est une réinvention. C'est-à-dire que c'est pas un flanqueur comme on dit, c'est-à-dire on prend un classique et on bidouille un petit truc
et on
le revend. Non, là, c'est vraiment une réinvention d'un grand parfum. Donc, on peut acheter les deux.
Hermès One Point. OK.
Le plus ultra luxe.
Alors, ça, c'est assez rigolo. On a parlé récemment des parfums de niche. La niche, elle est devenue tellement mainstream que certains se sont dit, maintenant, c'est trop grand public, tout ça. Nous, on va réinventer la niche, on va faire de l'ultra niche. Donc, c'est Serge Lutens qui lance les hostilités avec une collection premium de chez Premium. Qui s'appelle
flacons.
Section d'or. Le flacon vaut 480 € quand même. Donc là,
ça peut être de la niche.
Et surtout, dans les accords, on est dans des choses, alors là, encore plus... Lutens, finalement, fait une parfumerie assez classique, une très belle parfumerie classique. Là, il part vraiment dans tous les sens. Et notamment, dans la collection, il y a un parfum qui s'appelle Cannibal, qui est une espèce d'explosion de notes de fleurs brûlées. Mais vraiment, vous avez une impression un peu mazoutée, en fait. C'est très, très étrange. Et c'est... alors là, je ne sais pas si ça vaut les 480 euros, mais c'est vraiment innovant.
Au moins, ça change de l'ordinaire. Ouais. Et alors, ce qui change de l'ordinaire aussi, c'est un mariage totalement improbable.
Alors là c'est, vous allez rire, la maison Estée Dupont s'est associée pour lancer un parfum avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, alors, oui, allons-y. Parce que Zlatan Ibrahimovic a lancé lui aussi
son
parfum.
Oui, mais là, il s'est désolidarisé une fois de plus du PSG. Et là, il lance l'eau des princes, intense. Ouais. Vous voyez.
Ça, c'est quoi?
Et alors,
c'est
bien la traduction, ça le pitch, envie, hein. C'est l'élégance sportive d'après-match.
Ça sent quoi? Ça sent le vestiaire?
Non, alors, mais t'as déjà plus envie, là. Laisse tomber.
En fait, ça sent pas si mauvais que ça. C'est encore un boisé épicé, comme tous les parfums masculins du moment. Avec une petite note pomme, c'est simplement l'intention. L'intention me semble tellement ridicule. Je ne sais pas qui va acheter l'eau des princes.
C'est dommage que Estée Dupont ait une belle maison et on les a reçus récemment. Ils arrivent à faire des
stylos
avec James Bond, qui était légitime, il y avait une légitimité. Mais c'est vrai qu'à la force de faire des partenariats à lui et à Dia, bon, parfum du PSG, tu as envie de sentir le gazon, la mode de...
On vous laisse tester, messieurs.
Le retour de vestiaire.
Je peux vous poser une question, Lionel?
Oui.
Voulez-vous coucher avec moi?
Alors là, 13 ans d'émission, jamais
c'est,
eu ça.
C'est une proposition olfactive.
Mais moi, même olfactive, j'aurais bien aimé qu'on me la pose.
Alors, vous vous souvenez de Kylian Hennessy qu'on avait reçu ici, qui fait une parfumerie, là aussi, finalement assez classique, très luxueuse, mais classique. Et là, il se lance dans une proposition. En fait, il s'est amusé avec une chanson qu'on avait écoutée tous, parce que surtout moi et Emmanuel, on est de la même génération, qui la chanson... Lenny Marmelade, oui, voulez-vous coucher avec moi? Il s'est amusé avec cette phrase et il s'est dit, je vais recréer un parfum de séduction, mais différent. Donc il a associé des notes de Néroli, d'Ylang, de tubéreuse, de Santal. Et ça nous donne un jus sexy, mais pas vulgaire, un parfum très féminin, mais pas fifi, quelque chose de vraiment étonnant dans la séduction, une nouvelle forme de séduction. Et c'est vraiment un très très beau parfum. Ça, c'est un parfum pour les fêtes. Un peu d'avance.
Super. Et ça s'appelle Voulez-vous coucher avec moi, tout simplement, de Kylian Hennessy. Mille merci, Lionel Payet.
Merci beaucoup.
Revenez quand vous voulez.
Voilà. Quand vous voulez, revenez encore un petit peu.
Avec le parfum de la JOCR.
C'est l'agenda.
Par Jean-Michel Laure, hein.
C'est l'agenda. Tout de suite, vite, vite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Emmanuel, impossible pour vous, mais on a une minute, donc une info chacun, rapide.
Laquelle vous choisissez?
Allez-y.
L'hôtel?
Allez.
Allez, un hôtel qui ouvre dans quelques jours, s'appelle Le Grand Amour. Vous connaissez tous l'hôtel Amour à Paris dans le 9e arrondissement. C'est fameuse bande à André Sarajeva, dont on a parlé en début d'émission. Emmanuel, toute cette bande lyonnaise qui ont orchestré un hôtel un peu nouveau genre. Ils en ouvrent un deuxième qui s'appelle Le Grand Amour, cette fois dans le 10e rue de la Fidélité. Alors, l'hôtel Amour, c'était un petit peu un restaurant qui avait des chambres au-dessus. Là, c'est un vrai hôtel, 48 chambres, qui a un restaurant en dessous. Alors, tout commence justement par un restaurant avec, à terme, des jeux de salon, des boudoirs, des speakeasy. Puis au-dessus, 47 chambres. Mais alors, cette fois-ci, un peu moins vindicatif qu'à l'hôtel Amour. Vous savez, on était quasiment dans la chambre concept, très glamour, très sexualisé. Là, elles sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus sages. Quelques chambres où André, justement, a mis son grain de sel de graffeur et un petit peu des chambres latex. Mais un hôtel plutôt réussi dans cette zone de un peu ex-interlope du 10e arrondissement. Ça va faire courir toute la branchitude parisienne, mais ça m'a l'air plutôt bien fait.
Le
et un restaurant
amour.
Dont on reparlera, parce que je crois qu'il y a un joli chef derrière.
Ah bah voilà, Le Grand Amour de la Fidélité dans le 10e, c'est tout un programme, Le Grand Amour de la Fidélité.
Allez,
rapidement, pour terminer, un pop-up store Elisabeth Ardennes jusqu'au 31 décembre. Marque que vous connaissez, bien sûr, Lionel Payès, cette grande marque de cosmétiques new-yorkaise qui a toujours pas pignon sur rue. Donc, on y retrouve bien sûr la fameuse crème de 8 heures née en 1930, c'est 80 mètres carrés pour découvrir tous les produits de la marque, mais aussi un bar à maquillage, des entretiens personnalisés à chaque fois, hein, expérience d'achat et le soin visage, souffle d'oxygène. Avec ça, vous allez voir, vous allez être au top. C'est Galerie Passy Plaza, 53 rue de Passy dans le 16e pour ce pop-up store Elisabeth Ardennes et c'est jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup. Et maintenant, on se retrouve à la semaine prochaine.
On freine un peu, on décélère.
Même endroit, même heure et tout de suite, c'est le best-of de la semaine dans Good Luxe Paris.